Très mauvais pasteur, j'ai oublié ma Bible dans notre église ce matin. Mais je vous apporte en tout cas les salutations de l'église, puisqu'elle m'a dit quand je me déplaçais de les apporter avec. Donc voilà, chose faite. Et je me réjouis d'être des vôtres. Je crois comprendre que vous avez étudié l'épître aux Éphésiens ces derniers temps. Je me trompe? Bon, il y a au moins une personne, il y a deux personnes qui disent oui, qui étaient présents, semble-t-il. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir ce qui se passe quand une église continue de vivre et qu'elle oublie ce qui est central et essentiel pour maintenir une vivacité de la vie chrétienne. Je ne sais pas comment vous vivez la vie chrétienne, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, mais je trouve que c'est parfois pas évident, à la fois à titre individuel. Je réalisais il y a quelques jours que bientôt, enfin dans quelques mois, je célébrerai 30 années de vie chrétienne, et je me dis, je suis effrayé des petits progrès que j'ai faits finalement dans toutes ces années, parsemé de vraies difficultés, de chutes, et je me dis, c'est incroyable, tant d'années, si peu de choses. Je ne sais pas si vous serez, d'abord, je ne sais pas si vous allez me laisser continuer de prêcher, mais je ne sais pas si vous serez d'accord que parfois c'est une réalité, et parfois c'est aussi une réalité de façon collective, en tant qu'Église. Et ce soir, en réfléchissant à ça, alors que nous allons regarder une lettre que Jésus écrit et qu'il adresse à l'Église d'Éphèse, et on va voir le devenir de l'Église dont vous avez étudié les joies et les peines au cours de ces derniers mois. On va voir ce qui advient de cette Église quelques décennies plus tard. L'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, vraisemblablement autour de 95-96 après Jésus-Christ. Il y a des perspectives différentes à ce sujet. Je ne veux pas me bagarrer sur des questions de date, mais vraisemblablement, c'est quand même quelques temps après l'Épître aux Éphésiens, bien sûr, quelques temps après le fondement de cette Église. Je suis interpellé de voir à quel point, quand Jésus écrit à cette Église, il veut relever une chose essentielle que vous allez, bien sûr, vous connaissez probablement, mais que vous allez relever dans la lecture, et qui sera un peu notre exhortation ce soir. L'exhortation que je voudrais vous laisser, c'est vraiment, qu'en est-il de votre premier amour pour Christ? De façon individuelle, mais également de façon collective. Et c'est intéressant parce que Apocalypse, notoirement un livre difficile, il y a au moins une section qui n'est pas trop difficile à comprendre, c'est chapitre 2 et chapitre 3, parce que c'est simplement sept courriers que Jésus envoie ou fait envoyer à des églises et qui comprennent chaque fois un diagnostic sur ces églises. C'est un peu redoutable hein, comme diagnostic. Je veux dire, Jésus loupe rien. Hein. En même temps, il est Dieu. Hein. Mais il regarde les choses avec beaucoup de lucidité, de perfection, et il dit, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va bien. Ça qui va bien, et ça qui va pas. Et pour certaines de ces églises, il n'y a rien qui va bien. Et puis pour certaines d'autres de ces églises, il y a tout qui va bien. Éphésiens est un peu entre les deux. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ainsi se termine la lecture de la parole de Dieu. Quelques remarques, cette fois-ci personnelles, qu'il vous conviendra d'évaluer. D'abord, premier point, Jésus parle, verset 1. Et on va voir comment il s'adresse à cette église et ce que l'on peut en tirer. On remarque que c'est directement le Seigneur qui propose cette lettre et qui ordonne d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est tout le thème de l'Apocalypse, d'ailleurs. C'est un dévoilement de Jésus-Christ, de sa gloire, de son projet ultime, parfait, complet, de victoire qui est évoqué. Et nous voyons d'ailleurs au verset 1 du chapitre 1 que l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la chaîne est complexe hein, d'ailleurs, hein, de transmission. Jésus qui donne à quelqu'un, etc., qui arrive à l'Église. Juste une remarque, pas très centrée sur le texte, mais juste une petite remarque. Parfois, j'entends dire les gens souligner, oh, la Bible ne peut pas être inspirée parce que même si Dieu avait parlé, Dieu a parlé à des hommes qui ont fait des erreurs nécessairement dans la transmission. Donc, elle n'est pas digne d'être crue. Alors, je sais que je suis en terrain solide dans cette église. Quel que soit l'intermédiaire, ce que Dieu dit est toujours correctement transmis. Dieu donne sa parole, même si ça passe par différents maillons, en sorte que ce qui nous arrive est exactement ce qu'il a voulu nous communiquer. Donc Dieu parle et on a intérêt à écouter ce qu'il dit. Toute la Bible est inspirée, elle est solide et capable de nous enseigner. Bref, l'ordre est donné d'écrire à une église qui se trouve à Éphèse, aujourd'hui en Turquie, et ça commence en disant d'écrire à l'ange de l'église. Quel est cet ange? Le mot ange veut dire messager, et la Bible utilise ce terme pour décrire des hommes, parfois, comme en Luc 9, 52, des anges de Dieu, comme en Luc 1, 11, ou bien des démons. Manifestement, cela ne saurait être des êtres angéliques ou démoniaques, enfin, démoniaques surtout, parce qu'on n'imagine pas qu'ils soient intéressés des propos de Jésus. Et donc, vraisemblablement, c'est plutôt écrit aux messagers de l'Église. Quand Dieu regarde les églises qui sont comme ça dans le monde, eh bien, il considère qu'il y a un messager, quelqu'un qui est chargé de conduire, d'instruire l'assemblée. C'est une interprétation possible, un peu délicate parce que dans le Nouveau Testament, la responsabilité de l'Église est toujours entre les mains d'un collège de responsables, d'anciens, d'évêques, de pasteurs. Et donc, peut-être faut-il ici comprendre qu'il s'agit de l'ensemble de ceux qui ont la charge pastorale d'une Église, singularisée par un messager, une personne, et qui témoigne de l'unité qu'ils doivent avoir. En tout cas, quelle que soit la compréhension de ce qu'est précisément l'ange, je voudrais souligner à quel point ceux qui sont responsables d'une église portent une lourde charge, puisqu'ils devront rendre compte à Jésus de la manière dont ils s'en chargent ou déchargent. Ce qui, j'espère, conduit l'assemblée à apprécier le pasteur que Dieu vous a donné, les pasteurs, je ne sais pas combien vous en avez, quels sont les anciens, je ne sais pas exactement comment ça se passe ici. Mais en tout cas, j'espère que vous avez non seulement de l'amour, du respect, que vous priez pour eux, que vous encouragez. Ça m'a franchement juste d'entendre que vous organisiez une, je ne sais pas si je peux le dire ici parce que ça va être enregistré, mais que vous organisiez quelque chose de spécial pour quelqu'un. Bon, c'est trop tard. Hein. C'était juste formidable. Parce que c'est vraiment des hommes que Dieu donne à l'Église. Et que l'Église doit respecter parce qu'ils ont une charge dont ils doivent s'acquitter qui n'est pas facile. Dans chacune de ces 7 lettres, Jésus se présente en reprenant une des descriptions que nous avons dans le chapitre 1. On n'a pas le temps de lire la description de Christ glorifié que nous voyons au chapitre 1, mais ici il se présente avec deux caractéristiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est la première caractéristique, et on verra la deuxième. Ça n'a pas l'air clair. Jésus, il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. En fait, c'est tout simple. Il faut regarder le verset 20 du chapitre 1, si vous voulez bien lire avec moi. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. C'est clair maintenant, non? Non? Alors voilà. Jésus se présente et dit, moi je suis celui qui tient les 7 anges. Là, il dit les 7 étoiles, il dit les 7 anges, les 7 messagers, je les tiens dans ma main droite. Et le verbe est extrêmement fort, on pourrait traduire, je tiens fermement, je garde ma main fermée, je ne lâche pas ces étoiles. Je trouve que c'est un grand encouragement de réaliser, notamment pour les églises qui passent par des temps difficiles, que Dieu tient dans sa main ceux et celles qui sont les responsables de l'église. Mais il y a un autre aspect. Peut-être intéressant, c'est que l'église d'Éphèse me semble être l'une des églises les plus spectaculaires, les plus remarquables de tout le Nouveau Testament. Quand on lit l'histoire de cette église, on est impressionné par la puissance que Dieu a manifestée pour l'établir, par son rayonnement, son importance. Cette église a été fondée par l'apôtre Paul, comme vous le savez, probablement vers l'an 52 après Jésus-Christ, avec des miracles extraordinaires. Donc déjà, les miracles de la Bible sont remarquables, mais en plus, ceux-ci à Éphèse étaient extraordinaires, nous dit Actes chapitre 19. C'était quand même quelque chose. Vous imaginez être témoin de cela? Et non seulement cela, mais l'apôtre Paul lui-même qui avait fondé l'église avait rassemblé les disciples dans une école, probablement au seul moment où l'école était disponible, c'est-à-dire au temps de la sieste. C'est pas que les gens de là-bas étaient paresseux, c'est que entre midi et 15 heures, il fait quelque chose comme 40 degrés. Qui peut travailler à 40 degrés? Ce serait pas sage. Donc il faisait la sieste. Peut-être que c'était le seul moment où l'école de Tyrannus était ouverte, et donc les gens y venaient. Quel sacrifice, hein. Les gens y venaient gâcher leur sieste et profiter de l'enseignement de Paul. Vous imaginez venir à l'église et pas entendre Alex ni quiconque, mais l'apôtre Paul. Ça devait être quelque chose, non? Mais il y a plus. Quand Paul s'en va, 3 ans plus tard, l'église fait un petit peu de chemin. Une dizaine d'années après sa fondation, Paul envoie Timothée à Éphèse. Vous imaginez être dans l'église où c'est pas Alex qui parle, c'est Timothée. Enfin non, je trouve que ça doit être extraordinaire. Mais c'est pas encore tout. Quelques années plus tard, il paraît que l'apôtre Jean avait fait de l'Asie mineure ses quartiers généraux et qu'il a exercé un ministère important à Éphèse. Vous imaginez ce que ça veut dire d'être de l'église d'Éphèse. Vous savez, chez nous, il y a Paul, il y a Timothée, il y a Jean. Et comme si Jésus, en se présentant comme celui qui tient les étoiles dans sa main, voulait aussi dire, vous savez quoi? Au centre de l'église, il y a qui? Jésus-Christ. Même quand on a eu des stars comme Paul, Timothée, Jean, Alex, c'est à ce point le respect que j'ai pour lui. Même quand il y a des stars dans une église, il n'y a que Jésus-Christ qui est au centre. Deuxième remarque dans la manière dont Jésus se présente, il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Or, les 7 chandeliers d'or sont, selon le chapitre 1 et le verset 20 que nous avons lu tout à l'heure, les 7 églises. Et le terme marcher est assez intense. C'est-à-dire que Jésus est celui qui marche dans l'église. C'est un peu effrayant. Dans le sens où Jésus ne regarde pas du ciel l'église. Il l'habite par ceux et celles qui se sont convertis, qui se sont tournés vers lui. Et il est celui qui marche dans l'Église, qui sait exactement ce qu'il en est de l'Église. Je remarque aussi que, enfin, excusez la palissade, mais qu'un chandelier sert à... Merci. Un chandelier sert à éclairer, n'est-ce pas? Et finalement, nous avons là le centre de ce que doit être une Église. Une église doit rayonner, ou elle n'est pas une église. Une église doit annoncer Christ, ou elle n'est pas une église. Les gens, les hommes, les femmes qui font partie d'une église doivent être ceux qui projettent Jésus-Christ comme le message, la personne le plus important qui soit. Et Jésus dit, moi je marche au milieu de l'église, et pour moi l'église c'est un chandelier. Alors peut-être vous dites, non, moi je ne suis pas un évangéliste. C'est pas grave. L'image du chandelier que l'on trouve dans l'Ancien Testament est assez surprenante dans le sens où, si on m'avait demandé de construire un chandelier, vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais fait une barre comme ça et 7 barres comme ça. 7 parce que c'est comme ça. Et puis, basta, ça suffit, n'est-ce pas? Mais quand on voit la description du chandelier qui est construit que Moïse fait construire, il y a plein de fleurs, de corolles, de choses artistiques. Je me dis, ça c'est l'Église. Il y a des gens qui sont des porteurs de lumière, c'est-à-dire des évangélistes. En fait, ils sont même assez pénibles parce que partout où ils vont, ils parlent de Jésus. Vous connaissez des gens comme ça? C'est génial. Enfin, partout où ils vont, ils ont besoin, parce que c'est leur malheur à eux s'ils n'évangélisent pas, c'est leur appel. Et ce sont des évangélistes. Mais même si on n'est pas tous avec ce don-là, on est tous à soutenir cette fonction. Et il y en a dans l'Église qui sont là pour botifier, si je peux inventer un verbe. L'Église est le témoignage de l'Église. Bref, Jésus se présente et il dit, attention, je suis moi au centre de l'Église. C'est moi qui tiens les stars, les étoiles. Deuxièmement, je sais exactement ce qui se passe dans l'Église. Je marche au milieu de l'Église. J'arpente l'Église. Et vient ensuite une catégorie de description que l'on va retrouver dans les autres lettres de l'Apocalypse, qui est une série d'approbations. Il y a certaines choses, c'est le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que Jésus approuve un certain nombre de choses. D'ailleurs, quand les gens viennent ou partent de notre Église, je leur propose de lire Apocalypse 2 et 3, de regarder ce qui est important pour Jésus et ce qui n'est pas important pour Jésus. Et quand ils vont choisir une autre Église, parce qu'ils déménagent ou pour X raisons, de faire en sorte qu'ils trouvent une Église où il y a les mêmes préoccupations que celles de Jésus. Finalement, c'est une bonne idée, non? Parce que très souvent, on se préoccupe de choses assez secondaires quand on réfléchit en termes d'Église. Voilà ce que Jésus approuve, notez bien, parce que finalement, c'est ce qu'il approuverait de chacune de nos églises. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, il existe deux verbes. Un verbe qui dit, je connais par l'apprentissage, et un autre verbe qui dit, je connais par la vue. Vous voyez la différence? Il y a certaines choses, je l'ai vu, donc je le sais. Je le sais par la vue. Il y a des choses que j'ai appris. Et quand Jésus dit, je connais tes œuvres, il dit, oh, j'ai vu tes œuvres. J'ai vu. Je sais parfaitement les difficultés, les opportunités et l'ensemble des choses que l'Église avait faites. D'ailleurs, je pense que Jésus avait vu les sacrifices que les gens faisaient, jour après jour après jour, pour recevoir l'enseignement de Paul, pour être édifiés en Christ. Ils avaient vu, Jésus voyait la persévérance, le travail. En fait, il semble que du centre d'Éphèse, plusieurs églises soient nées, beaucoup des églises de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, seraient nées du ministère missionnaire de la ville d'Éphèse et de l'école biblique, en quelque sorte, que Paul avait fondée à Éphèse. Il semble que Épaphras s'était converti là-bas, puis que ce soit lui qui ait fondé l'église d'Éphèse, donc l'église, pardon, de Colosse. L'église de Laodicée semble être née aussi de la ville d'Éphèse. Donc quand Jésus dit « Je connais cela », il sait à quel point les frères et sœurs se sont impliqués dans l'œuvre de Christ. Ils ont sué pour ça. Non seulement ils n'avaient pas chômé, mais ils avaient œuvré jusqu'à la pénibilité. C'est le sens du mot. C'était pénible, parfois, la vie de l'église d'Éphèse. Les gens avaient sué pour l'œuvre de Dieu. Ce n'étaient pas simplement des consommateurs de services spirituels. Ils ne donnaient pas à Jésus les miettes de leur vie, après Facebook, après les mails, après les textos, après la télé, si j'ai le temps, je m'occupe de Jésus et de son Église. Ils avaient inversé les priorités et Jésus était au centre, Facebook plus tard. Voilà. Ils avaient aussi persévéré, un verbe qui dénote l'attitude de quelqu'un qui est assiégé par une armée et qui ne se laisse pas envahir. Il faut réaliser qu'Éphèse était un centre de spiritualité occulte. Vous l'avez probablement vu avec Éphésiens 6. C'était pas évident d'être chrétien. Il y a même des récits qui nous rapportent que certaines zones, certains coins d'Éphèse étaient réputés infestés de démons et les gens avaient peur de s'y rendre. Alors pour nous, culture occidentale, ça semble très étrange, mais il y avait vraiment un combat quelque part spirituel qui était très fort. Et il fallait du courage, de la persévérance pour afficher sa foi. Il faut imaginer les gens qui marchaient dans la direction de l'église d'Éphèse, probablement une grande maison, alors que tout le monde allait en sens inverse. Et je crois que c'est l'une des grandes qualités que Jésus relève, je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, mais le business évangélique est un business incroyable. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres et qui prêchent un évangile qui n'est pas un évangile de grâce et de repentance, mais qui est un évangile de prospérité, un évangile centré sur soi, un évangile faux qui doit être dénoncé. Il y a des gens qui sont qui se disent apôtres, il faut leur dire, tu n'es pas apôtre, tu es un faux apôtre, tu es un menteur. Et Éphèse avait eu le courage de cela. Quand met en perspective l'histoire de l'église d'Éphèse, il y a un texte surprenant. Lorsque Paul se rend à Rome, c'est son dernier voyage, son dernier passage à Éphèse, et il rassemble non pas l'église, mais il rassemble les évêques ou les anciens de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire les responsables. Et écoutez ce que l'apôtre Paul leur dit. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et c'est là où ça devient intéressant. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Paul ne parle pas à des chrétiens seulement. Il parle aux responsables de l'Église. Et bien aimé, la plus grande protection de l'Église, c'est l'Église. La question n'est pas quand est-ce qu'il y aura des loups redoutables dans l'Église ici, parmi les responsables. La question, c'est quand. Je suis désolé. C'est comme ça que ça marche. Parce que Satan ne supportera pas qu'une Église soit fondée sur la parole de Dieu, sur la grâce en Christ. Et donc, placera des hommes qui seront des faux ouvriers. Et il faudra que l'Église ait la sagesse, le courage de dire « tu te tais ». On n'a pas l'habitude de penser en ces termes dans une Église. L'Église, c'est gentil, c'est doux, c'est... Ah oui, ça, je ne peux pas trop faire parce qu'il y a de vrais violons ici, il y a violonistes. Ignace d'Antioche félicite l'Église d'Éphèse quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas dans la Bible, mais il dit « J'ai appris que certains venant de là-bas sont passés chez vous, porteurs d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment dans la pensée. » C'est excellent. Une église doit pouvoir reconnaître les faux prophètes et leur dire « Tais-toi. » Jésus voit cela. Certainement, l'appât du gain était un des éléments. Les faux prophètes sont très gourmands financièrement. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'un pasteur assez célèbre avait été sollicité par une église et sa secrétaire a faxé les conditions pour le faire venir et c'était un honoraire à 5 chiffres, 10 000 dollars de gasoil pour, enfin pas, c'est pas du gasoil mais d'essence pour son avion, un manicure et un coiffeur pour l'orateur, donc le pasteur, une suite dans un hôtel 5 étoiles et une voiture de luxe européenne assez récente et puis du Perrier à température ambiante. Voilà. C'est assez facile parfois de reconnaître les faux prophètes. Hein. Le culte de la personnalité, c'en est un autre signe. Ou le fait de diviser l'Église. Il y a des gens, ils viennent dans les églises, ils commencent, tac, et tac, et tac, et tac. Ils se présentent comme des responsables, mais ils cassent tout, ils cassent le pasteur. Ils cassent... Ou pire, discrètement, ils viennent parler à des gens qui sont en souffrance et leur disent, tu sais, si moi j'étais responsable, je m'occuperais de toi. Mais le pasteur, il est nul. Et puis petit à petit, ça prend racine parce qu'on est tous... Il n'y a personne qui s'occupe de nous-mêmes suffisamment. Hein. Alors Jésus approuve que l'Église a été discernante. Il approuve aussi qu'ils aient su détester les œuvres. Notez bien, ils n'ont pas détesté les Nicolaïtes. On déteste personne, hein, nous les chrétiens. C'est pas, si vous détestez quelqu'un, ce n'est pas bon signe. Hein. Mais on déteste les œuvres des Nicolaïtes. On ne sait pas trop ce qu'ils sont. Certains pensent que ce sont des groupes hyper-libertins qui encourageaient un style de vie immoral sous prétexte que la vie était faite de grâce. Soit un groupe d'hyper-dirigeants, ce serait par rapport à l'association du mot au verbe de dirigeant, de vainqueur. Et MacArthur, que je cite ici, dit « D'après Irénée, le Nicolas, nommé diacre en acte 6, était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré les membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait, tout comme Balaam, pardon, il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sensuelles contre l'Église. Clément d'Alexandrie écrivit qu'ils s'adonnaient au plaisir comme des chèvres et ne se refusaient rien. » Par leur enseignement erroné, ils pervertissaient le sens de la grâce et remplaçaient la liberté par la licence. On ne sait pas. Toujours est-il que l'Église est le rempart de l'orthodoxie. En fin d'analyse, ce sont les chrétiens qui doivent dire « Seigneur, est-ce que ça vient de toi ?» Jésus se présente dans toute la force qui est sienne, Jésus approuve et maintenant Jésus reproche. « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » C'est terrible une église, parce qu'un bon CV ne suffit pas. Et on peut avoir vécu des années de fidélité. Mais si Jésus se présentait, Est-ce qu'il nous dirait, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour? Dans une église, on s'insurge à juste titre contre des péchés comme le mensonge, la colère, le vol, l'immoralité sexuelle. On a raison, un péché, je suis d'accord. Mais je suis quand même interpellé que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire, Florent, je suis inquiet. Où en est ton premier amour? Et pourtant, c'est l'élément central ici que Jésus relève de cette église. 40, 50 ans après sa naissance, quarantaine d'années peut-être, Jésus dit, où en est ton premier amour? Et on se demande ce qu'il en veut dire. Est-ce qu'il s'agit de l'amour les uns pour les autres? C'est peu probable dans le contexte. Est-ce que c'est l'amour pour la doctrine apostolique? C'est peut-être une piste, puisque Jésus vient de parler de combien ils étaient solides en doctrine. Est-ce que c'est l'amour pour Christ? C'est certainement une composante importante. Moi, je vous suggère autre chose. Je ne suis pas le seul à le suggérer, hein, mais je vous suggère autre chose. C'est l'amour de l'éclairage. EDF. Enfin non, pardon. L'amour de l'éclairage. Vous vous souvenez, le chandelier? En fait, c'est tout lié, hein. Aimer Christ, c'est aussi aimer que Christ soit aimé. Et donc, il y a une proclamation de l'Évangile. Et je trouve que c'est difficile de maintenir au fil des ans la passion des âmes. C'est difficile de se dire que Dieu veut sauver ceux et celles qu'il a élus de toute éternité et que justement, il veut m'employer dans mes prières, dans mes relations avec mes voisins, dans ma proclamation de l'Évangile pour les atteindre et de faire en sorte que ça ait lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement facile de rester sous le soleil de la grâce et de se dire qu'est-ce qu'on est bien en tant que chrétien. Pourrait lire Jérémie plus tard, le temps passe vite, Jérémie chapitre 2 relève cette passion qu'Israël avait perdue vis-à-vis de Dieu, Ézéchiel chapitre 16 également, c'est parfois un peu cru comme langage, mais je pense qu'il y a un vrai combat de ne pas se perdre dans la lassitude du ministère. Moi, je me souviens, j'étais dans enfin, du ministère qui n'est pas le ministère pastoral, mais le ministère de chaque chrétien, le service de chaque chrétien. Je me souviens, je crois être en partie évangéliste, c'est pas tout à fait le centre de ce que comment Dieu m'a fabriqué, mais je suis arrivé à l'aéroport pour partir en Allemagne pour des conférences et j'étais sec de chez sec et j'avais franchement pas envie de parler à quiconque. Enfin, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'étais préoccupé, des situations difficiles personnellement. C'était lourd, quoi. Et j'arrive à l'aéroport et je vois dans la salle d'embarquement de l'avion que je devais prendre deux personnes avec qui j'avais témoigné, enfin, à plusieurs reprises. Et je me suis dit, oh non. Donc je me suis mis de l'autre côté de là où ils étaient. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient. Je pouvais voir leur dos et au moins je me suis dit, s'ils se retournent, je me retournerai. Si, enfin voilà, je pouvais faire toutes les stratégies pour les éviter. Et puis le car arrive pour prendre l'avion, c'était à Saint-Olas, enfin Saint-Exupéry. Et puis je vois où ils vont, je me mets de l'autre côté. Enfin, vraiment, il fallait pas me parler. J'étais dans ma bulle et je voulais rester tranquille. Et puis je monte dans l'avion et je me suis assis à côté d'eux. Et je sais combien c'est difficile de s'asseoir à côté de ceux qu'on a envie d'avoir comme voisins dans un avion. Ça, c'est le problème souvent, c'est qu'on est souvent divisé quand on est en famille, alors qu'on voudrait passer du temps avec eux. Et voilà que, dans la providence universelle, souveraine du Seigneur, je me suis trouvé auprès de ceux qui étaient à mes côtés. Et franchement, c'était une belle leçon pour moi. Parce que j'entendais comme une nouvelle fois cette exhortation. C'est contre toi que tu as perdu ton premier amour. Je me souviens quand je me suis converti, moi je suis né d'une famille païenne de chez païenne, je les aime beaucoup, hein, c'est vraiment, j'ai très bonne relation avec eux. Mais quand je me suis converti, quelques jours après, je prenais des jeunes chrétiens irlandais, on devait visiter Lyon. Et moi j'étais rempli de la joie du salut, enfin, c'était incroyable. Enfin, quand on est né dedans, on ne se rend pas compte, mais c'est géant le salut, quoi. Et je conduisais donc, et puis eux ils discutaient, foot, film et tout ça, et je leur dis, on peut chanter un des chants de louange, hein, que j'avais appris, enfin, très simple, hein. Et donc, ils s'arrêtaient de discuter, et puis qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Non, on n'a pas envie, c'était obligé, quoi. Donc, on chantait Majesté, puis j'étais tout content. Puis à la fin, ils reprenaient leur discussion, et puis moi, je leur disais, mais on peut pas chanter un autre chant? Quelques années plus tard, j'étais devenu pasteur. Un homme spirituel et pieux. Et nous allions dans une retraite spirituelle dans le nord de la France, et j'avais emmené avec moi un certain nombre de jeunes responsables de l'Église. Je voulais vraiment qu'ils perçoivent la vision de ce qui pouvait se faire dans l'Église. Et il y avait dans la voiture un jeune homme, un cher ami qui est handicapé et qui était relativement jeune dans sa foi. Et nous étions en train de parler stratégie d'Église, développement d'Église, évangélisation. Et puis j'ai entendu du fond de la voiture, on chante. Et je me suis dit, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est parti là. C'est plus Christ qui est au centre. C'est plus l'amour de son nom, la proclamation de sa personne qui est au centre. Ça devient un programme, un projet. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné mon premier amour, ton premier amour. Alors, troisième partie, Jésus exhorte, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place. Ah, on retrouve le chandelier, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Alors, voilà, trois étapes dans lesquelles Jésus nous exhorte, si jamais ce message est pertinent pour vous. Premièrement, de se souvenir. Souviens-toi donc d'où tu viens. Qu'est-ce que je serais devenu si Christ ne m'avait pas envahi à un moment donné? Pourquoi est-ce que Josué a sorti 12 pierres de la rivière et les mettre au bord? Parce qu'on a besoin de souvenirs. On a besoin de repères. C'est pourquoi c'est bien parfois de parler de son témoignage avec Christ. Parce que ça renouvelle. Ah oui, Dieu a fait ça quand même. Et on est encouragé par cela. Ce souvenir, c'est utile quand on est au fond du désert, qu'on se sent seul et que c'est vraiment pas facile. La vallée noire, obscure, par laquelle on traverse, que ce soit par la souffrance, soit par le péché, que ce soit par les situations qu'on ne comprend pas, les conflits qui durent et tout ça, et on se dit, mais Seigneur, t'es où? Souviens-toi. Il y a eu des balises où Dieu est intervenu. Fais-en la liste. N'oublie aucun de ses bienfaits. Deuxièmement, repens-toi, c'est-à-dire change ta manière de penser. On est tellement souvent centré sur soi, n'est-ce pas? À se plaindre. Repens-toi. Change de mentalité. Évalue la situation comme moi je l'évalue. Dis à Dieu. Dites à Dieu. Oui, j'ai perdu mon premier amour. C'est vrai. Je t'en demande pardon. Je veux changer, revenir dans ma passion. Et troisièmement, se réengager. Les œuvres sont le témoignage de notre amour. Très souvent, s'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a plus d'amour. C'est comme dans un couple, hein. S'il n'y a rien qui se fabrique, c'est difficile de maintenir la pensée émotionnelle, la pensée favorable à la construction d'un foyer. En tout cas, la mise en garde, elle est solennelle. Si jamais tu ne te repens pas, j'écarterai ton chandelier. Il n'y aura plus de lumière à Éphèse. Il n'y aura plus d'église. Jésus fermera la porte. C'est fort, hein, comme mise en garde. Godet souligne. Je ferai que tu cesses d'être une église, soit en te supprimant complètement, soit en te frappant de mort spirituelle. La lumière, une fois éteinte, ce qui arrive toujours lorsque l'amour a disparu et que Dieu retire ses grâces, il ne reste plus d'église, alors même que des formes mortes subsistent encore. On peut pas jouer à l'église, hein. Ça marche pas, hein. On peut pas jouer à l'église, on peut pas venir dans un lieu pour chanter des chants si Jésus est pas au centre. C'est rasoir de passer un dimanche soir comme ça si Jésus n'est pas au centre. Ça a du sens que si Jésus est au centre. L'histoire nous apprend qu'il n'y avait plus d'église à Éphèse 150 ans après les paroles de Jésus. On a trouvé par l'archéologie plein de correspondances entre le récit des actes, mais on n'a pas trouvé de traces de communauté chrétienne. Peut-être qu'on trouvera plus tard. Pour l'instant, on n'a rien. Alors, moi, les trucs qui m'aident pour renouveler mon amour pour Dieu, et j'ai régulièrement besoin de ce message. Hein. Je ne cherche vraiment pas à pointer du doigt. Hein. Ça me fait du bien de revenir à cela. Hein. Enfin, d'accord? J'ai aucune idée non plus de penser à vous. Enfin, c'est pas une parole prophétique dans le sens vous avez perdu votre premier amour. Je regarde ce que Jésus dit à une église. Mais très régulièrement, je sais que j'ai besoin de revenir. Très régulièrement. Parce que je suis pécheur. Parce que je suis. Parce que c'est dur, parfois, sur différents fronts, parce que plein de raisons. Et ce que je fais, c'est que je prends une heure ou deux, parfois juste, un peu des RTT, hein, pour me balader au parc de la Tête d'Or avec une lettre de la Bible, ou quelques psaumes que je relis et que je personnalise. Certaines personnes, ou parfois aussi, ce que je fais, c'est que je me prends un temps plus long, peut-être un temps de jeûne, et je vais marcher. En relisant l'histoire des premiers chrétiens à Lyon, donc je descends de Fourvière jusque des petits coins comme ça, et je relis ce qu'ils ont enduré et qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des chrétiens sur Lyon. Vous trouverez ça assez facilement sur Internet, Lettre des martyrs de Lyon, ça vous décrira un peu ce qui s'est passé. Et je me dis, ah ouais, quand même, il y a des frères qui ont marché pendant face à des choses difficiles et ça m'aide. Parfois, je prends un temps plus prolongé, je vais prendre un bon livre, un livre de Piper ou d'autres, ou de personnes qui des hommes de Dieu de gros calibre, et j'essaye de percevoir un peu leur cœur, de voler un peu de leur spiritualité, et de confronter mes propres perspectives pour renouveler ma marche avec lui. J'ai apprécié le livre Prendre plaisir en Dieu, notamment la version qui est liée à la souffrance, et qui s'intitule Prendre plaisir en Dieu malgré tout. Un livre remarquable pour donner un peu un équilibre quand les temps sont durs. Un autre, celui de Dune, quand les cieux sont silencieux. Et qui sont des livres qui nous aident un peu à remettre les choses en place. Et je termine avec quatrième point, je crois. Jésus promet. Donc, il se présente. Il approuve. Il reprend, il exhorte, et puis ici il promet, verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez que l'appel est au singulier, que celui qui a des oreilles. Il y a une tendance assez terrible chez les êtres humains, probablement pas dans cette église, dans la nôtre beaucoup plus, mais il y a une tendance assez terrible de toujours donner un coup de coude à l'autre. T'as entendu, ça c'est pour toi, ça. N'est-ce pas? C'est un grand signe de maturité. Hein. Je sais, je le fais toujours. Mais Jésus, il ne parle pas que les autres qui ont des oreilles écoutent, hein. Il n'y a que celui. On ne peut pas parler à une église. Une église, ce sont des gens très différents, avec des situations très très différentes. Que celui ou celle qui entend et qui dit « Ah, c'est pour moi ça. C'est pour moi. » Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et la notion de vainqueur, ce n'est pas la notion du super chrétien. Je ne crois pas que ça existe. Enfin, je ne pense pas encore. Peut-être je changerai d'avis. Mais je ne pense pas que ce soit le super chrétien. Le vainqueur, c'est celui qui persévère. Parce que la réalité de sa foi se concrétise dans la persévérance au milieu des afflictions qui font partie de la vie sous le soleil. Il n'en existe pas d'autre vie. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le temps me manque pour parler du paradis, mais c'est tout simple. C'est comme la terre, le péché en moins. C'est déjà pas mal, avec Jésus pour centre, encore mieux. Et je crois que il y a plein de choses à anticiper, mais quand il est question de paradis, il s'agit surtout d'un jardin, il s'agit d'une terre glorifiée, avec dans la description qu'on lit en Apocalypse, même si ce sont des images, je crois que ce sont des images qui nous donnent un repère pour imaginer ce que c'est. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des arbres, et il y a un monde glorifié dans lequel alors nous pourrons enfin nous reposer de nos œuvres, jouir de la communion parfaite avec Dieu et les uns avec les autres. Ce temps de vie terrestre est un temps où nous sommes exhortés à maintenir la priorité, la centralité de Christ comme objet de notre amour. L'Église, c'est vraiment un verbe. C'est le verbe aimer, enfin, aimer Christ, aimer son œuvre, aimer sa parole, aimer sa personne, aimer sa mission. On a quelques années à vivre. 60, 10, 80, peut-être plus pour certains. Puis ensuite, c'est le paradis. Et au vainqueur, celui qui aura su témoigner de par sa persévérance la réalité, l'authenticité de son amour pour Christ, les plus belles promesses sont accordées. En sorte qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. Alors ma prière pour vous en tant qu'assemblée, c'est que vous puissiez entendre ce que Galates 6,9 nous dit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je prie que vous puissiez vivre pleinement cet engagement en faveur d'un amour rayonnant pour Christ tout au long des ans. Et je le dis avec beaucoup de chaleur parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'amitié pour plusieurs ici, mais notamment pour Alex et son épouse, qui sont vraiment des gens remarquables. Est-ce que je peux prier pour clore ce message? Merci. Dieu et Père, je prie pour que ta parole ait tout son impact en nous. Je suis très conscient que c'est facile d'exhorter à partir d'un texte si fort. Et je dois reconnaître, moi le premier, la pauvreté de mon amour pour toi, de mon engagement pour toi. Je te remercie de ta grâce et de ton pardon et je prie que tu nous accordes une passion renouvelée. Je prie que cette assemblée ici soit saisie par ton esprit d'un désir de demeurer en toi, d'aimer ta parole, d'être missionnaire dans le sens d'être le reflet de Jésus-Christ sur cette terre, de proclamer l'évangile. Je prie ta grâce et ta bénédiction sur chacun et je prie, Père, pour que tu sois glorifié dans l'Église pendant toutes les années qui nous séparent de ton retour. En ton nom. Amen.